Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Notre nouvelle série concerne donc les anges qui nous servent. Nous arrivons à l'étude numéro 2. Nous aurons deux petits thèmes. Premièrement, l'ange gardien. Deuxièmement, l'ange qui entend le cri des enfants. Dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus dit à ses disciples « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leur ange aux cieux voit constamment la face de mon Père qui est aux cieux. » Saint Matthieu, chapitre 18, verset 10. Les petits qu'évoquent cette parole, ce ne sont pas seulement les enfants, mais aussi les êtres simples, inconnus, ceux auxquels la communauté chrétienne n'accorde pas beaucoup d'attention, pour dire parfois aucune attention. Or, de ces petits que l'on méprise, chacun d'entre eux a son ange qui voit la face de Dieu. Et c'est ce passage de l'Évangile qui a conduit l'Église à formuler la doctrine de l'ange gardien personnel. Cette idée des anges protecteurs, on la rencontre dans un grand nombre de religions. Jésus reprend ici à son compte l'idée juive, mais il va plus loin qu'elle. Dans le judaïsme rabbinique, en effet, les anges gardiens sont sur la terre et ne peuvent donc pas voir, selon eux, la face de Dieu. Évidemment, ce n'est pas ce que la Bible dit. Jésus, voyez-vous, veut dire, lui, que, au fait, chaque être humain a son ange qui voit Dieu. Chacun est ainsi placé sous la protection spéciale de Dieu qui lui envoie un messager particulier. C'est dès sa naissance que chaque humain a son propre ange gardien et l'Église a maintenu cet enseignement jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que cela signifie? À l'évidence, l'Église est persuadée que Dieu place un ange aux côtés de chaque être humain. Certains pères de l'Église, tels que Origène, Tertullien, Clément d'Alexandrie, ont même enseigné que les anges participaient à l'engendrement de l'homme. Celui-ci n'existe pas ou n'est pas entier sans son ange personnel. Les pères ont attribué un ange gardien non seulement à l'individu, mais encore aux différents peuples et même aux communautés. Dans l'Apocalypse de saint Jean, le voyant adresse son message à l'ange de chaque communauté ecclésiale. Apocalypse chapitre 2. Ainsi donc, chaque enfant a son propre ange gardien. Sans cesse, des adultes racontent combien l'idée de cet ange a été important pour eux dans leur enfance déjà. Il leur donnait un appui dans un monde qui est fait d'insécurité. Les enfants ont donc un sentiment naturel de la réalité des anges. Dans ses souvenirs, une femme raconte que sa vie quotidienne était gouverné par la relation à son ange gardien. Elle était convaincue que son ange ne l'avait jamais quittée toute sa vie durant. Il était là, par exemple, chaque fois qu'elle cherchait une place de stationnement. Elle pensait qu'auprès de chaque enfant dort un ange qui veille sur lui, mais que l'ange gardien d'un adulte est toujours en éveil. Il est un fait que les parents ne peuvent pas surveiller toutes les allées et venues de leur enfant. Plus ils prétendent de contrôler leurs faits et gestes, plus ils développent eux-mêmes d'angoisse et d'agressivité. Et ce sont souvent ces parents qui veulent exercer un contrôle total, qui sont voués à voir se produire précisément ce qu'ils avaient craint. Or, contre cette tendance, on peut s'aider de la conviction qu'un ange préserve l'enfant de tous les dangers. Mais qu'apporte cette croyance aux parents? Surtout quand leurs parents voient que leur enfant est battu par d'autres sur le chemin de l'école, ou il y en a qui sont victimes d'une agression sexuelle. L'ange gardien, il n'a pas de compétence universelle, on peut dire. Ce que nous sommes, nous, en mesure de faire, eh bien, nous devons le faire nous-mêmes. Nous devons, avant tout, avoir assez d'intelligence et de sagesse pour prendre la juste mesure de la réalité de ce monde. Il reste en outre, en dépit de tout, ce domaine intermédiaire que l'on ne peut ni saisir par la pensée, ni réglementer. Dans ces conditions, les parents trouveront une aide précieuse en recommandant leurs enfants à son ange gardien. Ils seront ainsi déchargés de leurs soucis personnels, car jamais ce souci ne leur garantira que l'enfant reviendra toujours sain et sauf de l'école ou du jardin d'enfants, ou qu'il ne se blessera pas en jouant. Qui tente de protéger son enfant contre tous les risques possibles, le rend aveugle aux dangers réels. Il faut donc que l'enfant fasse l'expérience et l'épreuve de ce dont il est capable. Il peut toujours arriver quelque chose, l'enfant ne prenant pas, par exemple, la juste mesure de ses limites. La confiance en l'ange gardien doit aller de pair avec les indispensables mesures de précaution. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi certains enfants exposés au danger malgré leur ange gardien perdent la vie. Lorsque il nous est donné de sentir qu'un ange nous a sauvés d'un danger, eh bien c'est toujours par une grâce divine dont nous n'avons pas la disposition. Voyez-vous, tout adulte a fait un jour ou l'autre, sans doute, au moins on peut dire une fois l'expérience d'un danger immédiat qui l'a menacé. Par exemple, voulant doubler sur l'autoroute, eh bien, il n'a pas vu une autre voiture de sport, beaucoup plus puissante, en train de doubler aussi en même temps. Et cette fois encore, tout s'est bien passé. Beaucoup se disent alors spontanément « Oh, mon ange gardien m'a vraiment protégé. » Ou bien, vous êtes lancé à toute vitesse sur un bouchon et vous avez tout juste le temps de freiner. Ou encore, votre voiture fait un tonneau et il ou vous en ressortez indemne. C'est pas automatique cela. Alors vous dites, il y a un ange qui m'a gardé, qui m'a secouru. Autant d'occasions où nous croyons qu'un ange gardien nous a préservés. En de tels instants, les chrétiens convaincus ne sont pas les seuls à y croire. Parfois même, il y a des athées qui parleront de leur ange gardien. C'est qu'il a l'intuition d'être placé sous une protection dont le pouvoir le dépasse et lui échappe totalement. Un tel ange nous donne la confiance et l'assurance de toujours revenir sain et sauf quand nous partons pour le travail. Il nous libère de l'inquiétude que nous causent les tâches à accomplir et où nous pourrions échouer. Voyez-vous, l'idée de l'ange gardien est tellement répandue qu'on peut la rencontrer dans n'importe quelle âme humaine. Les Juifs en parlent. Les Grecs, ils appellent cela leur démon. J'ai jamais compris pourquoi. Les Romains, par contre, pour eux, c'est leur génie. Même si bien des gens aujourd'hui ne croient plus en Dieu malheureusement, ou ont beaucoup de mal à établir une relation personnelle avec Dieu, ils croient tout de même encore à l'ange gardien. C'est curieux, mais c'est ainsi. Cette croyance est donc une sorte de quête de la foi en Dieu, car celui qui parle de l'ange sait que cet ange vient de Dieu qu'il a mis lui-même à ses côtés. Cependant, croire à l'ange gardien n'implique pas nécessairement une profession de foi portant sur l'ensemble du dogme chrétien. C'est exprimer une expérience sans cesse renouvelée qui nous ouvre à la dimension où se tiennent les anges créatures de Dieu. Et c'est dans notre propre condition de créature, dans une situation concrète de danger, par exemple en voiture, dans une maison qui brûle, ou quand nous glissons dans la rue, que se manifeste à travers les anges la proximité salvatrice de Dieu, dont ils sont une concrétisation. Et c'est par les anges que Dieu intervient dans notre vie quotidienne. Ce reflet de la divinité dans notre vie, ceux qui le reconnaissent sont bien plus nombreux aujourd'hui que les croyants qui considèrent expressément Dieu comme leur père et leur mère. Or, Jésus dit des anges gardiens qu'ils voient la face de Dieu. Donc, chaque être humain, par son ange, a une relation à Dieu, et cette relation est directe. La personne humaine n'est pas limitée au domaine du visible et du faisable. Elle atteint à la sphère divine. Il y a un mystère qui l'environne. Même dans la solitude, l'homme n'est pas vraiment seul. il n'est pas abandonné quand il traverse une forêt sans être accompagné. Le discours religieux, qui reste tout à fait possible pour beaucoup de gens à l'âge postmoderne, se traduirait dans la psychologie de la façon suivante. L'idée de l'ange gardien met ainsi l'homme en relation avec les forces protectrices de son inconscient. Elle l'aide à être plus attentif à lui-même et à s'engager avec moins de crainte dans la vie. Les humains ne vivent pas seulement dans la réalité que leur présente leur entendement critique, mais aussi dans le domaine intermédiaire, où ils ont connaissance d'un lien entre le ciel et la terre, entre les réalités visibles et les réalités invisibles. Et comme ils sont familiarisés depuis l'enfance avec ce domaine, ils ont une compréhension immédiate de l'idée d'ange gardien. Sans se livrer à ce sujet, à une réflexion critique, ils sont convaincus au fond de leur cœur qu'un tel ange les accompagne et les garde de tous les dangers. Le pasteur et psychothérapeute luthérien Helmut Hark travaille souvent en thérapie avec l'image de l'ange gardien. Par exemple, dans un groupe d'entraînement à la connaissance de soi-même, il a fait réfléchir les participants, que ce soit des hommes et des femmes, sur la signification qu'avait pour eux leur ange gardien. Et les réponses ont été les suivantes. Il y en a qui ont dit « Il me protège sur mon chemin ». L'ange renforce mon caractère. Il éloigne le mal de moi. Il est actif dans les hasards heureux. Et c'est par lui que les choses s'arrangent. Il apparaît également dans les situations critiques. C'est par lui que je suis incité à de bonnes actions. Pourquoi pas ? C'est en quelque sorte le frère jumeau de l'âme. Parfois, il me met en garde. Ça arrive très souvent. Et il y en a qui disent, pour moi, c'est une intelligence supérieure. C'est en quelque sorte la voix intérieure qui me parle. C'est l'image spirituelle primordiale de mon âme. L'ange inspire mon imagination. Par sa méditation, des énergies curatives produisent leur effet, et c'est par lui que je reçois l'idée qui me sauve. Toutes ces phrases montrent que même des êtres plutôt étrangers à l'Église ont aujourd'hui l'intuition de ne pas être abandonnés à leur solitude. Dans l'idée qu'un ange gardien les accompagne, les préserve du danger et intervient pour les sauver, c'est leur foi en la protection et l'assistance de Dieu qui s'exprime. Bien souvent, ils ne peuvent pas se représenter Dieu dans l'ange. Il prend alors figure concrète. Il descend jusque dans leur vie quotidienne. Et en thérapie, cette idée de l'ange protecteur personnel exerce souvent une action curative. on rapporte le cas d'une femme qui était sans cesse tourmentée par l'idée du suicide. Elle faisait des dépressions continuelles. Or, un jour, dans un rêve, elle a vu un ange qui lui communiqua un sentiment tout nouveau, positif de la vie, ce qu'elle n'avait jusqu'alors jamais connu. Les idées de suicide avaient totalement disparu, comme balayées par un souffle. On parle des énergies spirituelles d'un ange gardien qui souvent brise les schémas existentiels d'autodestruction et guérisse même celui qui en était affligé. La foi en un ange gardien personnel, c'est autre chose et c'est plus que la représentation enfantine d'une jolie petite créature ailée qui nous accompagne toujours et partout. Si en tant qu'adulte, nous croyons en notre ange gardien, nous ne surmonterons pas seulement nos peurs des maladies, des virus, des microbes qui nous menacent, le moustique-tigre et autres, des dangers quotidiens sur la route et dans la vie professionnelle. L'ange nous communiquera aussi le sentiment de sortir plus fort des crises personnelles que nous traversons tous. Et si, à l'occasion d'une psychothérapie, par exemple, on reçoit l'histoire de ses blessures, c'est-à-dire on les revoit, excusez-moi, on revoit l'histoire de nos blessures et que l'on ne sait pas trop comment se dégager des difficultés que l'on a connues dans l'enfance, alors on éprouvera les effets de l'action curative exercée par cet ange. Il ne suffit pas, en effet, pour recouvrer la santé, d'appréhender par l'intellect ce qui nous a fait du mal. Bien des gens, alors, désespèrent d'eux-mêmes et du poids que la vie leur a fait porter. La foi en l'ange gardien nous permet donc de croire en confiance qu'au cours de ce processus thérapeutique, excusez-moi, eh bien, il peut se produire quelque chose comme, pourquoi pas, un miracle, qu'il émerge alors des profondeurs de notre âme une force de guérison qu'un ange nous apparaît en rêve et nous fait découvrir une vérité profonde, ou que soudain, l'angoisse ou l'idée du suicide disparaissent sans que nous sachions au fond pourquoi ça a pu se faire. Voyez-vous, donc, croire en l'ange gardien, c'est être délivré de la fixation sur ce qui, au cours de notre vie, nous a rendus malades. C'est de découvrir en nous-mêmes les énergies qui produiront la guérison. Cet ange nous a, dès l'enfance, accompagnés et préservés. Maintenant, il est à nos côtés, il est avec nous et poursuit son action protectrice et salutaire. Mais bien entendu, chers amis, nous ne devons jamais oublier que le Saint-Esprit est la plus importante des aides qui a été donnée aux chrétiens quand Jésus nous a dit je m'en retourne vers mon Père, et vous recevrez le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous avons l'ange qui entend le cri des enfants. Dans la Sainte Bible, la première histoire où l'on voit un ange jouer un rôle décisif, c'est celle de Agar, servante de Sarai, de Sarah, l'épouse d'Abraham, qui est appelée plus tard Abraham. Sarai ne pouvait pas lui donner d'enfant. Abraham alla donc vers la servante qui est devenue enceinte. Genèse chapitre 16, verset 4. Mais Sarai, elle fut prise alors de jalousie. Malheureusement, elle a maltraité tellement Agar que celle-ci a dû s'enfuir au désert. Et c'est là qu'un ange du Seigneur la rencontre et lui demande « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Genèse, chapitre 16, verset 8. Et puis, l'ange la renvoie vers sa maîtresse, car elle doit supporter ses mauvais traitements, car l'ange lui a promis que son fils Ismaël serait prospère et aurait une nombreuse descendance. Cet endroit où l'ange du Seigneur lui est apparu, Agar le nomme Lahai Roy, ou roi. Toujours la Genèse, chapitre 16, verset 13. C'est le puits du Dieu de vision. C'est le puits du Dieu de vision. Alors la situation dans laquelle Agar se trouve ainsi placée est vraiment archétypique. Elle se sent rejetée, elle se sent abandonnée de tous. Abraham, dont elle est enceinte, lui, il la livre à l'arbitraire de sa femme Sarai. Sarah, elle n'a personne qui intervienne en sa faveur. Et c'est alors que l'ange la voit et lui apparaît. Cependant que les humains la délaissent, eh bien l'ange, lui, il voit sa détresse et il ne l'abandonne pas. Une telle expérience, les enfants la font souvent. Ils se sentent incompris de leurs parents, les parents qui les grondent, voire même les battent pour des riens. J'ai connu cela à outrance. Certains adultes racontent que dans leur enfance, ils ne parvenaient pas à y voir clair, moi non plus. Tout ce qu'ils faisaient était mal fait. Leur père avait des réactions tout à fait arbitraires et ils ne pouvaient jamais savoir au juste ce qu'ils auraient dû dire ou faire, car n'importe quoi pouvait au fond déclencher une explosion de fureur paternelle. Les enfants qui vivent cela se sentent abandonnés et livrés au bon plaisir des adultes. La réaction normale, alors, ce serait de couper court aux sentiments et de se borner à une ou à un comportement fonctionnel. Mais il y a, Dieu soit loué, d'autres réactions possibles encore. Les enfants se cherchent un espace où ils peuvent se livrer à l'oubli, où ils peuvent se sentir bien, faire entièrement corps avec eux-mêmes. Ces réactions salutaires, on pourrait aussi les considérer comme étant l'œuvre de l'ange qui veille sur l'enfant. L'ange le conduit donc au lieu où il se sait protégé, où il se sait hors d'atteinte de la cruauté et de l'arbitraire de ses parents, là où il ne peut plus recevoir de blessures, où il se sent intact, où il se sent en communication avec la source intérieure. Et là, l'enfant découvre, comme Agar, le puits, un puits auquel il peut maintenant se désaltérer. Agar a nommé ce puits Lahai Roy. Genèse chapitre 16, verset 14. C'est le puits du vivant. C'est le puits qui me regarde. Pour certains enfants, eh bien, ce lieu de sécurité, c'est tout simplement l'Église. Pour d'autres encore, c'est la couverture qu'ils vont tirer par-dessus leur tête afin de se sentir protégés. D'autres encore se construisent des châteaux forts pour s'y retirer, ou bien des cavernes dans la paille, si vous êtes en campagne, dans le foin, où ils peuvent retrouver la protection du sein maternel. Ils peuvent aussi s'entretenir avec leur ours en peluche, ou encore au chien, ce qui les accable, ils peuvent le lui raconter, car ils savent qu'ils seront compris, c'est authentique. Et cela me donne l'assurance que même des êtres ainsi blessés pourront encore trouver un chemin dans leur vie. L'ange de notre histoire renvoie donc Agar chez Sarai, dont elle doit malheureusement encore supporter les mauvais traitements. En effet, elle a reçu une promesse divine. Et ce genre de message, l'ange le donne à l'enfant délaissé et traité avec injustice, parce qu'il a reçu, lui aussi, la promesse. Parce que dans ses jeux, il a connaissance d'un autre monde, d'un monde où il est important, créatif, où il lui est donné d'innover par lui-même. Et c'est ainsi qu'il peut retourner toujours à la maison paternelle et supporter les difficultés qui l'attendent. Voyez-vous, pour les êtres qui en thérapie ou en assistance spirituelle regardent en face les blessures de leur enfance, il est donc d'un grand secours de découvrir dans leur histoire personnelle les traces qui ont été laissées par l'ange. S'ils racontent à tout le monde les expériences malheureuses qu'ils ont faites, eh bien, ils ne s'en trouvent que plus mal encore. Se raconter peut certes apporter un soulagement, mais cela peut aussi parfois, bien au contraire, alourdir la charge. Alors ils reconnaissent que même dans leur enfance, il y avait un ange qui voyait leur détresse et leur a donné la force de supporter la dureté. Et si l'adulte qu'ils sont devenus reprend contact avec son ange, il développera un autre rapport aux blessures de sa vie passée. Il reconnaîtra la promesse qui lui a été faite, cet autre monde où dès l'enfance il a été plongé, les forces de guérison qui émanaient de l'ange et étaient plus puissantes que les coups et les blessures qu'il a reçues. Voyez-vous ? Oui, c'est sérieux. L'histoire d'Agar, elle n'est pas encore terminée, car par la suite, après la naissance d'Ismaël, Sarai ne peut pas supporter de voir cet enfant s'ébattre plein de joie et de vie. Il y a malheureusement encore aujourd'hui des parents qui, comme elle, ne supportent pas la vivacité de leur enfant. Au lieu de s'en réjouir, ils l'envoient au désert comme Sarai. Ils se détournent de lui et le laissent dans la solitude, dans la sécheresse d'une loi sans amour, le manque d'attention et d'égard. Il est donc menacé de mourir de soif et de faim, et il erre sans cesse, complètement désorienté. C'est peut-être la blessure causée par un père tant aimé qui produit en lui une grande confusion affective, car il ne sait plus où il en est. Et dans cette confusion, eh bien, il n'a plus aucune chance pour la vie. Et quand Agar a épuisé l'eau de son outre, elle a jeté l'enfant sous un buisson et elle est allée s'asseoir un peu plus loin en se disant « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Genèse chapitre 21, versets 15 et 16. Et c'est là alors que l'ange du Seigneur l'appela et lui dit « Que as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit là où il était. Alors, debout, Agar, soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai une grande nation. » Genèse chapitre 21, versets 17 et 18. J'ai pris cela dans une version allemande, mais c'est pareil chez vous. Et l'ange, lui, il va dessiler ses yeux, c'est-à-dire de permettre à ses yeux de voir l'impossible pour l'œil normal, de voir la réalité au-delà, de telle sorte qu'elle a pu voir tout à coup un puits tout proche. Dieu fut donc avec lui, et l'enfant grandit et demeura au désert, et il est même devenu un tireur d'arc exceptionnel. Genèse chapitre 21, verset 20. Des situations analogues à celles d'Agar, eh bien, bien des mères en vivent aujourd'hui. Elles ne peuvent pas supporter de voir leur enfant envoyé au désert par un père lui-même trop faible pour lui fortifier l'échine, est tout juste capable de lui faire subir le poids de ses humeurs. Une mère ne supporte pas d'entendre les cris de son enfant qui meurt de soif et de faim parce qu'il ne reçoit pas de son père ce dont il a besoin. Donc l'histoire d'Agar et Ismaël nous montre que pourtant l'enfant n'est pas abandonné. Oui, un ange le voit et entend ses cris. Et c'est là un message réconfortant. L'ange ne nous a pas seulement entendu pleurer et crier, parfois même en silence, quand nous étions enfants, il nous entend aussi quand nous crions aujourd'hui encore. Oui, ça nous arrive à tous. Seuls dans le désert, sous un buisson, Ismaël paraît n'avoir aucune chance, promis à la mort dans une chaleur brûlante. Mais l'ange du Seigneur entend ses cris et montre à sa mère Agar le puits qui se trouve tout proche. Et quand, dans une situation sans issue, nous ne pouvons plus faire autre chose que crier, alors il y a toujours près de nous un puits où nous pouvons boire et refaire nos forces. Il se peut que nous ne l'apercevons pas tout de suite. Nous avons alors besoin qu'un ange ouvre nos yeux aveuglés, aveuglés par les pleurs, et qu'il nous permette de voir l'aide qui s'offre maintenant à nous. Ce peuvent être des personnes qui vont venir nous aider, des personnes dans notre entourage. Ça peut être un lieu où nous faisons le plein de forces nouvelles. Ça peut être une église, ou bien encore une certaine prairie, un bois où nous nous sentons à l'abri. Ce peut être aussi une source intérieure qui nous était devenue inaccessible et avec laquelle nous retrouvons soudain le contact. Notre vie alors s'épanouit à nouveau, alléluia. Nous déployons nos facultés comme Ismaël, comme il a découvert et vécu sa vocation d'archer. Ismaël est devenu un grand peuple. Il développe toutes ses virtualités. En effet, l'archer, expert dans le maniement de l'arc et des flèches, c'est une image symbolique de la vitalité et de la vivacité de l'être humain. L'arc a toujours pour fonction de relier deux pôles, c'est-à-dire le ciel et la terre, Dieu et l'homme. C'est lui qui fait de nous des êtres entiers, des êtres complets, en lesquels les opposés communiquent et produisent une saine tension, c'est-à-dire celle qui envoie la flèche à son but. Avec l'arc, nous pouvons devenir de bons archers qui visent bien et atteignent la cible, qui réussissent leur vie parce que en vivant, ils ne passent pas à côté d'eux-mêmes. L'archer, c'est en quelque sorte l'image de la spiritualité qui s'efforce de s'unir à Dieu. Et c'est ainsi, dans notre désert à nous, l'ange nous fait découvrir en nous-mêmes cette aspiration qui nous sort de l'impasse et nous mène vers notre véritable but, l'espace divin où nous faisons l'expérience de la sécurité, de la liberté et de l'amour absolu. C'est souvent dans une situation sans issue, précisément, que nous allons découvrir de quoi nous sommes capables et ce que nous sommes dans notre vérité. Mais nous avons besoin d'un ange qui nous entend crier, d'être qui n'ait pas peur de nos cris, et surtout de l'ange intérieur qui sait entendre l'appel de notre âme et y répondre. Des femmes ont été victimes d'abus sexuels. Je sens souvent monter en moi cette question. Voyons, pourquoi donc personne ne les a-t-il entendus crier? Leur mère, elle ne voulait pas écouter leurs cris d'enfant. Quand l'enfant essayait timidement de révéler leur détresse intérieure, la mère a répondu, « Mais voyons, ton oncle a toujours été tellement gentil avec tout le monde. On ne peut tout de même pas inventer des choses aussi terribles à son sujet. » Et c'est ainsi qu'un jour ou l'autre, l'enfant avait tout à coup cessé de crier. Et ces femmes ont enfoui au plus profond d'elles-mêmes leurs blessures terribles. Et puis, elles n'ont plus pensé qu'à la vie quotidienne. Mais elles s'étaient ainsi, elles-mêmes, coupées de la vie, en quelque sorte. Elles ne voulaient plus que survivre et de fonctionner pour ne plus devoir affronter leur terrible souffrance. Or, voilà qu'un jour, le cri explose à nouveau en elles. Et c'est qu'un ange les a touchées afin qu'elles cessent d'étouffer leur propre cri, cette blessure. Il faut qu'elles l'affrontent. D'où tire-t-elle maintenant ce courage? Si quelqu'un les assiste, s'il est capable d'écouter sans peur les choses effrayantes qu'elles racontent, alors elles font l'expérience de l'ange qui a parlé à Agar dans le désert. Elles rencontrent parfois l'ange sous les traits d'un être humain qui leur découvre le puits caché en elle. Mais l'ange peut aussi prendre la forme de leur propre force intérieure, cette force qui jaillit soudain en elle. Et c'est alors dans leur cœur que survient l'ange qui leur montre la source vive où elles peuvent puiser pour se régénérer et s'épanouir, pour guérir de leur terrible blessure. L'ange leur apporte ainsi la promesse solennelle. En dépit de tout ce qu'elles ont subi, elles deviendront un grand peuple, le bon archer qui a réussi sa vie et qui a atteint le but de son désir profond, dont l'accompagnement spirituel et la psychothérapie, nous ne devons pas regarder toujours seulement les blessures, mais nous devons nous arrêter au cri, si important que soit pour celui qui souffre de pouvoir crier sa souffrance. Nous devons donc nous mettre à la recherche de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et lui remettre tous nos problèmes. Croyez-moi, Jésus-Christ nous abandonnera jamais à notre triste sort. Chers amis, je vais vous donner une petite prière comme exemple. En allemand, c'est eine Anleitung, pour vous aider à formuler vous-même votre prière selon votre cas, selon votre situation actuelle. C'est donc juste un petit exemple. Dieu, à la fin des temps, tu es venu lorsque l'aurore pointait pour nous sauver. Tu avais chassé Adam du paradis et tu l'as à nouveau ouvert pour lui et pour nous. Par ta mort sur la croix, prends-moi en pitié, car ma vie, elle touche à sa fin et le soir approche. Le temps manque pour enlever toutes mes tâches. Je ne puis demander encore de longues années pour réparer mes fautes. Alors prends-moi en pitié dans ta compassion lorsque le temps de la miséricorde est achevé. Jette sur moi ton regard de paix et de bonté quand tu viendras en toute sévérité pour juger. Guéris-moi ici sur terre et je serai sauvé. Et chers amis, j'aimerais maintenant, si cela fonctionne, vous donner quelques chants d'un passé très lointain, c'est-à-dire il y a tellement longtemps. En 1962, j'ai enregistré ces chants, ces mélodies. En ce temps-là, il existait ni CD, ni cassette. Il y avait des appareils à bande tels que le Revox. Pour des plus fortunés, il y avait le Nagra de Kudelski. Mais avec les années, et on peut dire depuis 1962, eh bien évidemment, les paroles sont plus aussi audibles, aussi nettes, et je m'en excuse. Alors, voici donc quelques mélodies du passé.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, Tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go. Out where the bright lights are glowing, moth to a flame. You laugh while the wine's overflowing, while I sit and whisper your name.
Closing in on me.
talked with an old friend. He asked about you. I managed to tell him with just a tear or two. I'm getting better. I'm getting better. I know I'll never be the same. I was standing too close to the flame. But it doesn't so much to hear your name. I think I'll make it.